Libertaire 89.4. Nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue, avec notre invité d'aujourd'hui qui est Alain Parot, pour nous parler de son roman Assia, publié aux éditions On verra bien en 1922. Thérèse, tu vas nous présenter Alain.
Oui, donc bonjour, bonsoir d'ailleurs. Alain Parot est l'auteur d'un ouvrage Écrire les camps, publié aux éditions Belin en 1995. Un ouvrage où il tente, dans un effort constant d'écriture, de dire la vérité de l'expérience concentrationnaire à partir de témoignages des rescapés des camps, nazis et soviétiques. Il a par ailleurs publié des poèmes dans la revue Poésie et des textes dans Lundi Matin. Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Assia est l'histoire d'une rencontre improbable, celle du narrateur et de Assia, une réfugiée syrienne, dans le tumulte des manifestations des Gilets jaunes à Paris. Dans ce roman-poème, des fragments d'histoire individuelle et collective se nouent, se séparent. Un kaléidoscope de souvenirs, de rêves, d'émotions enveloppe les personnages qui tentent de se rejoindre et de s'aimer. Dans ce récit, la révolution syrienne, sa terrible répression, la mémoire vive des insurrections passées et les émeutes d'aujourd'hui entrent en résonance. Alors Alain, quelle est l'ambition de ce livre? Qu'est-ce qui t'a conduit à l'écrire?
Alors merci pour l'invitation. L'ambition du livre, elle est fondamentalement double. Le premier aspect, c'est de donner ou d'essayer de donner une forme sensible aux émotions, aux affects éprouvés par le narrateur pendant les manifestations. Alors, ce n'est pas uniquement les manifestations des Gilets jaunes, ce sont les manifestations auxquelles le narrateur a participé depuis 2016 jusqu'aux événements des Gilets jaunes. Alors, ces émotions, ces affects, c'est la joie, la peur, l'amitié et surtout le sentiment de l'expression de la participation à une communauté fraternelle. Et cette question de la fraternité est absolument centrale dans le texte. La fraternité, c'est, à mon avis, ce que le pouvoir craint le plus. Et la fraternité, c'est en même temps ce qu'on pourrait rapprocher aussi de ce qu'Aristote indique comme le sentiment qui doit lier les citoyens, c'est-à-dire des hommes qui sont dans un rapport d'égalité les uns avec les autres. Donc cette première ambition, ce premier point de vue, on pourrait dire que c'est celui d'un acteur. Il y a une deuxième ambition, disons, un deuxième effort, c'est celui de rendre compte de la révolution syrienne à travers le point de vue du narrateur, donc, qui rencontre une réfugiée syrienne, Assia, et qui, suite à cette rencontre, s'efforce de comprendre, de s'informer, de prendre la mesure de l'importance de cet événement et des échos qu'il suscite dans l'imaginaire, la sensibilité et la pensée de ce narrateur. Alors évidemment, les expériences du narrateur et d'Assia sont très éloignées l'une de l'autre. Et d'une certaine façon, ce sont des expériences incommensurables. Et pourtant, il y a malgré tout des points de rencontre. Et ces points de rencontre, ce sont précisément les points où la sensibilité et les émotions des deux personnages sont les plus proches. L'exaltation du soulèvement, la force de la fraternité, le désir d'une société et d'une vie délivrée de l'oppression. Pour résumer, je dirais que c'est un livre, c'est un effort pour inventer une écriture basée sur la circulation et l'enchevêtrement de fragments d'histoire individuelle et collective qui à la fois se rencontrent et se séparent, qui suscitent des images du passé, des insurrections et des révolutions. Donc il y a des références à la révolution de 1848, à la Commune, à la guerre d'Espagne et quelques autres. Ce n'est pas un roman historique, mais dans mon esprit, c'est plutôt un roman-poème dans lequel le réel et l'imaginaire, le présent et le passé, le proche et le lointain ne cessent d'entrer en résonance.
Oui. Et pourquoi as-tu choisi spécifiquement une héroïne syrienne ? Pourquoi syrienne ?
Alors, le personnage d'Assia, il s'est imposé à moi lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos des manifestations en Syrie qui ont commencé en 2011 et à m'intéresser à cette révolution, à découvrir la terrible répression qui s'est abattue sur le peuple syrien avec l'aide militaire de l'Iran et de la Russie. Donc cette répression terrible avec des bombardements d'hôpitaux et d'écoles, des emprisonnements, la torture et l'exécution de dizaines de milliers de personnes s'est déroulée dans l'indifférence à peu près totale de la communauté internationale. Le personnage d'Assia porte avec elle cette histoire tragique et c'est cette histoire qui bouleverse le narrateur. À travers l'émotion que j'espère susciter chez le lecteur, c'est la mémoire de cette histoire que je voudrais, disons, modestement préserver et témoigner des blessures qu'elle a infligées au corps et aux âmes des Syriennes et des Syriens. En ce sens-là, le personnage d'Assia, c'est un témoin, mais c'est un témoin fragile, lointain, qui semble toujours prêt à disparaître. Elle surgit dans la vie du narrateur comme un rêve, un peu à la façon dont, dans le poème de Baudelaire à une passante, le personnage féminin surgit et disparaît. Ce qui explique aussi que la possibilité d'un amour entre les deux personnages aboutisse finalement à un échec. Et lorsque Assia dit au narrateur, je cite donc, « Essaye seulement d'imaginer avec tes mots », elle lui fait comprendre qu'entre elle et lui, la distance restera infranchissable, que l'imagination rapproche sans relier véritablement.
Dans ce récit, tu évoques l'art comme témoin de l'histoire. Tu cites Goya, Eldos de Mayo, de 1808. Un tableau qui veut témoigner de l'événement historique et politique. Alors ma question sera, comment la littérature entend-elle témoigner de l'histoire ?
Alors c'est une question très importante, parce que dans le projet de ce roman, il y avait quelque chose que je ne voulais absolument pas faire, c'est une écriture qu'on pourrait appeler une écriture de la névrose, une écriture repliée sur des problèmes strictement personnels. Donc la question du rapport de l'art et de l'histoire, ou de la littérature et de l'histoire, c'est une question qui me paraît absolument essentielle. En l'occurrence, je pensais, disons, à cette phrase d'Adorno, du philosophe Adorno, qui se demandait « Que deviendrait l'art s'il rompait avec le souvenir de la souffrance accumulée ?» Et la question alors que je me suis posée, c'est comment la littérature, en tant que telle, peut témoigner des violences de l'histoire. Alors cette question, elle m'est venue aussi en lisant un grand écrivain russe qui a passé 20 ans dans les camps de la Kolyma, Varlam Shalamov, et qui, réfléchissant justement à ce que pouvait être une littérature à l'époque des camps ou une littérature après les catastrophes du XXe siècle, proposait sous une forme un peu programmatique cette idée, l'authenticité d'un procès-verbal porté au plus haut niveau de l'art. Cette idée, cette sorte de programme littéraire, elle suppose deux choses. D'une part, premièrement, que l'écriture, que la littérature doit respecter l'exactitude historique, donc elle suppose un travail de documentation. ce que j'ai fait s'agissant des événements de Syrie. Et d'autre part, elle suppose bien sûr un travail sur la langue. Et c'est ce lien entre l'exactitude historique et le travail sur la forme et sur la langue qui peut avoir une chance de permettre d'approcher la vérité de l'expérience. Mais cette vérité de l'expérience, dans ce texte, j'ai voulu qu'elle reste toujours au plus près de l'individu, au plus près de son corps, au plus près de ses pensées, au plus près de ses émotions.
Alors, dans ton texte, le narrateur et Assia se rencontrent à Paris, au cœur des affrontements qui opposent la police et les manifestants pendant les manifestations des Gilets jaunes. Et tu parles dans ton texte de vertige de l'émeute, ce qui est une expression du sociologue Romain Huet. Comment as-tu essayé de transcrire ce vertige de l'émeute qui est en plus de pleine actualité aujourd'hui? On est quand même aussi dans une situation d'émeute quasi généralisée.
Absolument. Alors, avant de répondre plus précisément à cette question, je pense qu'il n'est pas inintéressant de distinguer ces trois termes: émeute, soulèvement, révolution. Le narrateur, clairement, donc, il est du côté de l'émeute. Assia, tout aussi clairement, elle est du côté du soulèvement et de la révolution. Donc, la difficulté, c'est précisément de trouver, d'inventer un langage qui traduise l'intensité des émotions éprouvées pendant une émeute, mais aussi, et là, de façon beaucoup plus imaginaire, si vous voulez, de traduire l'intensité des émotions éprouvées par le personnage d'Assia pendant le soulèvement syrien et pendant l'expérience de la révolution syrienne. Donc il y a une espèce de rapprochement qui est fait entre des affects éprouvés pendant une émeute et des affects éprouvés pendant un soulèvement et une révolution. Mais ces rapprochements sont des rapprochements d'émotions. Ce ne sont pas, évidemment, des rapprochements auxquels on peut donner le statut d'une identification historique ou d'une confusion entre les deux événements. Alors, pour traduire cette intensité du vertige de l'émeute, du côté du narrateur, j'ai choisi une écriture à la première personne, d'une part, et d'autre part, une écriture qui n'hésite pas à tendre vers la poésie par l'usage, en particulier, des comparaisons et des métaphores. Donc, cette tension, disons, cette dimension du texte qui fait qu'il se rapproche plus, disons, d'un poème en prose que d'un roman, disons, elle est liée pour moi à, disons, une sensibilité personnelle et en particulier l'importance d'un écrivain que j'admire beaucoup et que je trouve particulièrement remarquable justement dans sa capacité à écrire une prose poétique, qui est Julien Gracq. C'est une écriture, ce roman-poème, bien sûr, qui se distingue très nettement d'autres types d'écritures beaucoup plus sociologisantes, comme celle d'Annie Ernaux ou de Édouard Louis, par exemple.
Dans ton livre aussi, tu parles évidemment de la peur et du courage, et on va d'ailleurs écouter un extrait du livre. Non, on va pas l'écouter, ça ne marche pas. Frédéric, ça marche pas, il y a des problèmes techniques. Bon, ben on va pas l'écouter, alors on peut le lire. Voilà.
Page 38.
Alors, on va le lire. Vous attendez juste une seconde, on est en train de chercher la page. Page 38, vas-y Thérèse. Un soir.
Oui, tu peux le lire. Oui, tu peux le lire.
Je lis l'extrait, donc effectivement, c'est un passage très important pour moi, donc où il est question de la peur et du courage. Un soir, j'ai cherché sur une carte où se trouvait Dara, la ville où avait débuté la révolution syrienne. J'ai vu les images du siège, les attaques aux bombes barils, les missiles, les ruines, les morts dans les rues. J'ai pensé à Leningrad, à Olga Freidenberg, la cousine de Boris Pasternak, qui lui écrivait le 7 août 1942 « Tu ne peux pas te représenter comme la mort est difficile ». La peur n'est pas une langue commune, elle réunit et sépare, rassemble et isole, pensais-je. Et je me demandais si le courage en était une. Je me demandais de quel courage nous pourrions hériter, grâce à toi. Je me demandais si nous pouvions nous engager dans la conquête du courage. Toujours la peur était ce que je craignais le plus, disais-tu. Et toujours le courage avait été pour moi la plus grande des vertus. Ton visage était très pâle, après une nuit d'insomnie peut-être. Tes yeux semblaient arrêtés par une vision que je ne voyais pas. Le paquet de tabac sur la table, le craquement de l'allumette et la première bouffée, la musique, le bruit des verres, les rires et les conversations traçaient dans l'air des lignes fragiles, s'interrompaient et reprenaient leur parcours incertain en virevoltant autour des tables et des chaises.
Alors, juste dans cet extrait, tu poses la question « Est-il possible de s'engager dans la conquête du courage ? Comment ne pas céder à l'accablement ?» qui est une question que beaucoup de gens se posent en ce moment. Est-ce que tu as des... Comment répondrais-tu à ça ?
Alors, d'abord, c'est évidemment, je crois, enfin, pour toutes les personnes qui sont engagées dans des mouvements collectifs ou dans l'espérance d'une transformation de la société, c'est une question absolument essentielle et qui touche à la fois l'individu dans ce qu'il a de plus intime et le collectif, dans le collectif en tant qu'il est engagé dans un combat politique. Chez Assia, la peur et le courage renvoient à une expérience, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, qui est sans commune mesure avec l'expérience du narrateur. Puisque dans le soulèvement syrien, dans la révolution syrienne, elle risque sa vie, elle risque l'arrestation, la torture et l'exécution. Donc elle est effectivement arrêtée, et puis il y a une allusion dans le texte au fait qu'elle aurait été torturée. Le narrateur, lui, par rapport à Assia, dans la position dans laquelle il se trouve, il souhaiterait qu'elle lui donne en quelque sorte une leçon de courage à travers cette expérience qui est si éloignée de la sienne. Sur la question donc des rapports entre la peur et le courage, je crois qu'on peut dire que la grande différence, c'est que la peur sépare et que le courage rassemble. Mais les rapports, s'il est d'une certaine façon, il n'y a pas de communauté de la peur, du coup. Il y a des communautés du courage. Mais le courage ne se sépare pas de la peur, mais il la surmonte. Et sur cette question du courage, j'ai envie de citer une pensée de Vladimir Yankelevitch, qui est une pensée qu'il propose dans une réflexion strictement morale, mais qui me paraît très, très importante. Il parle du courage de commencer. Et le courage de commencer, comme étant la définition même du courage, selon lui. Et selon Yankelevitch, le courage, du coup, est la première vertu parmi l'ensemble des vertus. A contrario, selon lui, le découragement, c'est une faute morale. Je trouve cette pensée très, très importante et très intéressante.
Entre le narrateur et Assia, il y a une rencontre, une authentique rencontre. Pourtant, il y a ce qui échappe, ce qui n'est pas partageable. Le narrateur dit, page 46, je cite, « Me frayer un chemin vers ton histoire dans laquelle, nulle part, il est question de moi. » Quel est le sens de cet échec ?
Alors, l'échec de la rencontre entre le narrateur et Assia. Cette rencontre, d'abord, elle a lieu dans une manifestation parisienne. Et du coup, cette rencontre dans une manifestation parisienne, elle se rapproche, disons, d'un stéréotype du romantisme révolutionnaire. Il y aurait l'émeute ou l'insurrection, la révolution, et puis l'amour.
Un peu Victor Hugo.
Voilà, on pourrait voilà,
avec Marius.
Baudelairien aussi.
Oui, ou Baudelaire. Oui.
Bon. C'est une véritable rencontre. Ce n'est pas une rencontre totalement imaginaire. C'est une rencontre authentique, mais elle va se défaire peu à peu, malgré les efforts du narrateur, et précisément à cause de la distance qui les sépare, l'éloignement de leurs expériences, la distance qui sépare leur vie. Du coup, il y a dans le récit une véritable nécessité éthique et politique de l'échec. C'est-à-dire que si cet amour finalement s'était réalisé, on aurait pu, le lecteur aurait pu y trouver une sorte d'allégorie un peu facile qui aurait finalement résolu, disons, aboli précisément l'incommensurabilité de leurs expériences et de leur vie. Donc je ne voulais absolument pas que ça se termine bien, donc ça se termine par une séparation, tout simplement. Par ailleurs, une partie importante du texte est faite de la description de moments intimes entre les deux personnages. Et les moments où les deux personnages sont ensemble sont toujours des moments d'incertitude, des moments d'irréalité, où le narrateur semble presque dans un état de rêve éveillé. Donc ce qui est déjà en quelque sorte l'annonce à la fois de la fragilité de cette relation, de sa dimension fondamentalement imaginaire du côté du narrateur, et de son échec possible ou probable.
On va faire notre première pause, qui ne sera pas musicale, comme vous allez l'entendre. Frédéric ?
D'entendre les sons, en fait, qui sont tirés d'une vidéo qui a été tournée dans les manifestations syriennes en 1911, pardon, en 2011. Et on va mettre évidemment en parallèle ces sons de manifestations syriennes avec les manifestations qui ont eu lieu à Paris au moment des Gilets jaunes et tous les mouvements. Oui, on peut lancer le deuxième.
Macron en prison.
Merci Frédéric. On vient d'entendre donc les sons de la révolution syrienne et les chants des mouvements sociaux à Paris.
Des gilets jaunes.
C'est des gilets jaunes, ça en particulier. Hein, c'est vraiment la chanson des gilets jaunes. Et donc, ces rapprochements entre des événements différents, dans des contextes différents, n'est-ce pas une forme de pratique anachronique ?
Oui, alors, la question...
Je termine ma phrase. S'agit-il, comme le disait Bossuet, de cette encre qui fait confondre les temps ?
Alors, évidemment, le rapprochement entre les gilets jaunes ou d'autres manifestations, puisque les manifestations évoquées dans le livre ne sont pas uniquement celles des gilets jaunes, et les manifestations en Syrie peuvent, à juste titre d'ailleurs, si on prend ces rapprochements au sens premier du terme, tout à fait choquants. Mais en réalité, si on lit bien le texte, ces rapprochements sont des rapprochements essentiellement imaginaires, du côté du narrateur. Et tout le récit vise précisément à mettre en évidence cette dimension imaginaire. Cette dimension imaginaire, donc, qui fait que le narrateur, d'une certaine façon, à la fois rêve... l'expérience qu'il fait des manifestations parisiennes et en même temps, grâce à Assia, imagine les manifestations en Syrie, les événements, la révolution syrienne, mais il n'a de lien avec ces événements syriens qu'à travers le personnage d'Assia, à travers ce qu'elle lui en dit et à travers aussi ce qu'il cherche à savoir et à comprendre. Alors, donc il faut faire attention, évidemment, l'objection vient rapidement, mais l'objection ne s'accorde pas tout à fait avec ce que fait le texte. Alors, d'autre part, sur la question de l'anachronique, je crois très profondément que le présent est en réalité toujours anachronique, c'est-à-dire qu'il est hanté par le passé. Le temps historique n'est jamais un temps homogène, il est toujours en fait une constellation de différents temps qui ne cesse de l'habiter et qui lui donne parfois ses slogans, ses discours, ses modes d'organisation. Donc il y a une présence du passé dans les événements politiques comme les insurrections ou les révolutions, et c'est une présence souvent tout à fait évidente, voire revendiquée par les acteurs eux-mêmes. Alors on peut penser ici à l'imaginaire de la Révolution française, qui continue de jouer un grand rôle dans les manifestations des gilets jaunes, mais dans les manifestations qui se déroulent aujourd'hui même, ou hier et il y a quelques jours, on entendait un slogan, une référence directe à la Révolution française. Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer. Donc cet imaginaire-là est extrêmement présent. On sait qu'il a joué un très grand rôle aussi dans l'imaginaire des révolutionnaires russes. Et s'agissant de la Révolution syrienne, j'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'un des principaux théoriciens de la révolution syrienne, qui s'appelait Omar Aziz, qui est mort en prison en 2013, qui était un économiste et le principal théoricien donc, de cette révolution, ses références politiques, c'est l'anarchisme et la commune. Donc, dans une révolution qui, a priori, culturellement, socialement, paraît tellement éloignée de ses références, on découvre qu'en réalité, dans ses modes d'organisation, dans ses références politiques, et donc dans son imaginaire, il y a un lien avec la commune, par exemple. Du coup... J'aurais envie de reformuler la phrase de Bossuet. à propos de l'encre qui fait se confondre les temps, je la reformulerai ainsi, je parlerai d'une encre qui fait se mêler les temps, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Est-ce que tu peux nous expliquer la nuance entre confondre et mêler ?
Ben, la confusion, c'est à la fois, oui, c'est l'identification ou le mêler les temps, c'est préserver la singularité de chaque temps, ce qui distingue chaque temps, ce qui éloigne chaque temps l'un de l'autre, et en même temps, ce qui fait que dans une certaine conjoncture, ils peuvent se rencontrer. Et trouver des points de contact.
Alors, à la lecture de ce récit, Assia, évidemment, comment ne pas penser à Pasolini ? Pasolini qui était très engagé à gauche et qui observait la société italienne après la Seconde Guerre mondiale, celle du « miracolo italiano ». Dans un texte écrit en 1966, il exprime toute la rage et le désespoir que lui inspire le système de production capitaliste et les valeurs dominantes qui l'accompagnent. Je vais lire ce texte. Donc, voici ce qu'il écrit. Et c'est aujourd'hui, je vous dirai, qu'il faut s'engager non seulement dans l'écriture, mais dans la vie. Il faut résister dans le scandale et la colère plus que jamais, innocents comme des bêtes à l'abattoir, farouches comme des victimes précisément, il faut dire haut et fort notre mépris de la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur cette irréalité qu'elle a érigée en réalité, ne pas céder d'un geste ni d'une parole dans notre haine totale contre elle et ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux. Alors, est-ce que on pourrait dire que la littérature serait la garante d'un murmure, celui des oubliés ? Alors, nous pouvons lire un texte, un extrait de Assia, qui est page 61, du coup on ne peut pas, on avait enregistré les textes, malheureusement il y a un problème à la régie. Alors est-ce que Alain, tu veux bien lire page 61, petit texte qui nous parle donc du souvenir.
Donc le petit extrait que je vais lire précisément montre que l'imaginaire de la commune peut servir de lien entre une expérience, l'expérience du narrateur, entre l'imaginaire du narrateur, si vous voulez, et l'imaginaire du personnage d'Assia. Donc je vous lis l'extrait. Tu regardais les photos des fusillés de la commune. Ces visages si lointains se tenaient devant toi, figés dans le temps de l'absence, comme des poupées abandonnées sur le sol. Chaque corps dans son cercueil avait un numéro, livré au regard qui passe de l'un à l'autre, essayant d'imaginer son nom, son travail, les fragments d'une vie achevée ici. Mais les noms qui te venaient étaient ceux d'Adnan, Omar, Majid ou Hussein, et les photographies, celles des exécutés de la prison de Saïnadia.
Moi, je voudrais juste souligner quelque chose.
Oui.
Après l'extrait que tu viens de lire, je rappelle que tu as écrit un livre, enfin, que moi j'ai trouvé extraordinaire, qui s'appelle « Écrire les camps » et qui, pour moi, contient cette notion de faire revivre des murmures, de redonner des visages à ce qui a été dissous en cendres. Enfin, je veux juste souligner ça.
Oui, alors le travail...
C'est un thème, est-ce que c'est un thème qui est... celui de la sortir de l'oubli, le plus absolu, est un thème qui te hante.
Oui, certainement. Oui, alors effectivement, comme j'ai travaillé longtemps et de nombreuses années sur les témoignages littéraires des survivants des camps nazis et soviétiques, la question du rapport entre littérature et mémoire et oubli est une question absolument centrale. Alors, de ce point, sur cette question-là, pour essayer de formuler ma pensée en une phrase simple, disons, je dirais que effectivement, la littérature est un abri contre l'oubli. Mais pas seulement contre l'oubli, je pense que la littérature est aussi un abri contre les falsifications des discours du pouvoir. Et cet abri, il est en tant que tel, d'ailleurs, il est menacé très souvent par les pouvoirs établis, il est menacé par les puissances dominantes, et la littérature elle-même est souvent prise dans cette logique conflictuelle dans laquelle elle doit absolument lutter pour survivre, mais aussi, en l'occurrence, pour permettre à la mémoire de ceux qui ont disparu, de ceux qui ont été assassinés, à cette mémoire-là, de ne pas disparaître complètement. Les exemples historiques sont très évidents. Je veux dire, si on pense à l'expérience soviétique et au rôle de la littérature dans la société soviétique, que ce soit Solzhenitsyn, Chalamov ou des grands poètes comme Mandelstam ou Anna Akhmatova, la poésie, la littérature jouent un rôle absolument essentiel dans la préservation à la fois d'une certaine idée de la littérature, de la poésie, qu'il s'agit de préserver contre son instrumentalisation par le pouvoir, et la préservation de la vérité d'une expérience politique considérable, qui est l'expérience du totalitarisme soviétique, l'expérience des camps, l'expérience de l'extermination par le travail. Et évidemment, on trouve aussi dans l'histoire européenne, évidemment, l'expérience du nazisme, du Troisième Reich, de la Shoah. On sait à quel point la littérature a joué un rôle absolument essentiel dans la préservation de cette mémoire. Alors, il y a un autre aspect dans mon roman qui est la question de l'échec et la question de la défaite. Non pas la question de l'échec de la rencontre, de la relation amoureuse entre le personnage d'Asia et le narrateur, mais la question certainement plus grave, plus considérable de l'échec et de la défaite politique. Puisque aussi bien du côté de la Commune que du côté de la révolution syrienne, ce sont des événements qui se sont terminés par des défaites terribles, avec une répression sanglante, des dizaines de milliers de morts, et aujourd'hui encore, le peuple syrien subit les conséquences de cette défaite. Alors c'est vrai que depuis que, adolescent, j'ai commencé à m'engager politiquement dans différents mouvements, cette question de la défaite m'a toujours un peu obsédé, puisque d'un point de vue historique, si on se retourne vers l'expérience des mouvements d'émancipation, du mouvement ouvrier, des mouvements révolutionnaires, ce qu'on constate, malheureusement, c'est que il y a beaucoup de défaites, peu de victoires, des victoires provisoires, des victoires fragiles, des victoires finalement qui se renversent en leur contraire. Et donc le personnage d'Asia, portant cette histoire de la révolution, elle porte aussi cette défaite terrible. Il suffit de regarder les images de la répression par le pouvoir d'Assad et par les bombardements de l'aviation russe. Il suffit de regarder ces images pour prendre la mesure de l'ampleur de cette défaite. Et le narrateur, qui est lui très hanté aussi par la question de la défaite, évidemment, essaye de trouver dans le rapport avec cette réfugiée, essaye de trouver des raisons justement de ne pas être découragé, de ne pas sombrer dans le découragement, dans l'accablement et finalement dans le renoncement. Et c'est évidemment particulièrement difficile vu les caractéristiques de l'expérience qui est celle d'Assia. Alors, je crois, enfin, sur la question de la défaite, bon, le problème, évidemment, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus simplement se réfugier dans une perspective historique, dans une raison historique qui nous garantirait que, finalement, malgré des échecs provisoires, le grand soir arriverait. C'est pas mardi soir, mais le grand soir arriverait. Bon, cette téléologie de l'histoire, tout le monde y a renoncé, ou presque, et certainement on ne peut plus se réfugier dans cette téléologie de l'histoire. Je crois que, disons, si je peux parler du drame personnel du narrateur, c'est qu'il a le sentiment très vif du fait que le temps d'une vie humaine ne s'accorde pas avec le temps de l'histoire. C'est-à-dire le temps d'une vie humaine est un temps, par rapport au temps de l'histoire, qui est beaucoup plus restreint, réduit, bien sûr, et que, d'une certaine façon, le narrateur a le sentiment que le temps de sa vie va finir, et finalement, le temps de l'histoire, qui est par rapport à son existence absolument démesurée, peut-être infinie, je ne sais pas. Donc ce temps-là, il ne s'accorde pas avec le temps d'une vie humaine, et c'est quelque chose peut-être de tragique, je ne sais pas, ou de particulièrement douloureux pour le personnage. Mais sur la question aussi de l'échec et de la défaite, je vais citer un passage qui se trouve dans un texte des situationnistes. Les situationnistes, quand j'étais jeune, qui m'ont beaucoup intéressé, beaucoup enthousiasmé aussi. Et je vais vous lire ce passage très court. Voilà ce qu'on peut lire. Ainsi, nous pouvons affirmer, citation, qu'il y a des défaites qui sont des victoires, et des victoires plus honteuses que des défaites. C'est une citation de Karl Liebknecht à la veille de son assassinat en janvier 1919. La première grande défaite du pouvoir prolétarien, la Commune de Paris, est en réalité sa première grande victoire, car pour la première fois, le prolétariat primitif a affirmé sa capacité historique de diriger d'une façon libre tous les aspects de la vie sociale. De même que sa première grande victoire, la révolution bolchevique, n'est en définitive que sa défaite la plus lourde de conséquences. Je trouve ces phrases absolument remarquables.
Est-ce que c'est pas, pardon Alain de t'interrompre, mais un peu ça fait penser effectivement à l'histoire des anarchistes et de l'anarchisme.
Oui.
Tu vois qu'il y a toujours une dimension extraordinaire et tragique de gens qui souvent... je parle de personnages particuliers ou effectivement de la Commune qui était aussi qui était clairvoyant, qui anticipait beaucoup les choses, qui proposait des choses qui étaient extrêmement justes, et qui, je pense aussi à la guerre d'Espagne, et ça s'est toujours très mal terminé. On a toujours eu l'impression effectivement d'une espèce de lumière qui a été éteinte d'une manière extraordinairement violente, de gens qui ont eu raison et qui ont été massacrés. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai.
Oui, voilà. Oui, le narrateur du roman se pose à plusieurs reprises la question de la défaite. Et les références, par exemple, à la guerre d'Espagne renvoient à cette défaite, de même que les allusions à la Deuxième Guerre mondiale renvoient aussi à cette défaite absolument terrible de l'arrivée du nazisme au pouvoir, une défaite pour le mouvement ouvrier allemand absolument désastreuse. C'était véritablement un désastre politique. Donc, je crois, enfin, si je dois répondre, je veux pas. Le narrateur, lui, du coup, il est plongé dans une sorte de contradiction entre, d'un côté, une forme de lucidité historique qui lui fait prendre la mesure de ses désastres politiques, de ses échecs, et d'autre part, les affects, les émotions qui le poussent à l'action, qui le poussent à vouloir, à désirer une société libre, à contester, à dénoncer la domination, l'exploitation sous toutes ses formes. Donc il est pris dans quelque sorte un désir et une passion, si on veut, hein. Il est pris entre une passion et une raison, si vous voulez. Mais ça peut faire penser à la phrase de Gramsci qui parle du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté. Je crois que être acteur d'un mouvement social, être acteur dans un mouvement politique, disons vouloir faire en sorte que le désir d'une société juste ne reste pas simplement à l'état d'un désir inachevé, sans ouverture, sans promesse et donc sans action. Si ce désir-là ne se traduit pas d'une façon ou d'une autre par des expérimentations individuelles et collectives, c'est un désir qui n'a pas de sens. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'histoire des révolutions, des insurrections montrent à la fois des échecs, mais comme le dit très bien le texte que je viens de lire, ce sont aussi...
Qui est un texte de qui d'ailleurs ?
C'est un texte qui a été publié dans un pamphlet situationniste de 1966 qui s'appelle « De la misère en milieu étudiant ». Excellent texte, d'ailleurs. Oui, ce que je disais, c'est que l'histoire, c'est à la fois des défaites et en même temps, la mémoire de ces expériences, de ces événements, c'est une mémoire qui reste extrêmement vive. Et comme je l'ai dit à propos de la Commune, par exemple, c'est une mémoire qui a toujours la capacité d'impulser des expériences nouvelles, même dans des pays extrêmement éloignés de la France, en l'occurrence en Syrie. Donc la mémoire de ces révolutions, de ces insurrections, même si ces révolutions se renversent en leur contraire, ou même si elles sont écrasées dans le sang, c'est une mémoire qui soutient fondamentalement, je crois, le désir d'une société libre.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec le mouvement contre les retraites, le 49-3, et tout le truc qu'on a vu ressurgir, paf, vraiment d'une manière extrêmement soudaine, ressurgir cette mémoire et cette énergie, encore une fois, malgré les échecs innombrables qu'on a vécu précédemment, on a l'impression que cette énergie, oui, est toujours nourrie de cet imaginaire et probablement de ce que tu parlais de la jouissance de l'émeute ou de la jouissance de la fraternité. Et c'est, ça ressurgit constamment, malgré les défaites. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai toujours autant d'ardeur à aller, moi, en manifestation, mais enfin, à voir ce qui se passe. Alors que les désillusions sont innombrables.
Oui, c'est vraiment la question du désir. La question de savoir quelle vie on veut mener. si on veut mener voilà, une vie vouée à l'enrichissement, à l'argent, voire pire, bon, c'est la question. C'est pas une, comme disaient les anciens, ce n'est pas ça la vie bonne. La vie bonne, la vie qui mérite d'être vécue, c'est une vie, évidemment, pour le narrateur, pour le personnage d'Assia, et puis pour tous les gens qui s'engagent dans différents mouvements, dans différents pays, eh bien, c'est une vie, disons, qui répond à une exigence d'égalité, de justice et de liberté. Ça peut paraître un peu comme ça, un peu emphatique, mais en réalité, c'est vraiment ce qui mobilise des millions d'êtres humains dans l'histoire et dans tant de pays.
Et ça ne s'arrêtera pas. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. On a donc passé une heure avec Alain Parot autour de son roman Assia, publié aux éditions On Verra Bien, et on se retrouve dans un mois. Merci Frédéric, Thérèse et Alain Parot, bien entendu. Merci. Et on était sur Radio Libertaire 89.4.
Merci.
À bientôt.